Donc ce matin, on va regarder un peu justement notre thème annuel qu'on va commencer un peu à décortiquer. On a déjà commencé un peu à le faire à travers aussi les différents thèmes qu'on a eus depuis le début de l'année. Comment justement briller de la lumière du Seigneur, que ce soit à l'intérieur, c'est-à-dire que la lumière de Dieu continue de nous changer, de nous transformer, comme aussi de briller à l'extérieur aussi pour être un témoin de Dieu autour de nous. On a vu aussi ces derniers temps comment aussi de l'importance aussi d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais on a besoin d'être rempli, c'est-à-dire de vraiment que le Saint-Esprit puisse travailler en profondeur en nous, puisse nous montrer, nous diriger aussi dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme on l'a souligné il y a quelques semaines, ce thème de briller, on veut le décortiquer et on va le faire à travers le texte de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Et le thème, c'est être lumière et sel du monde. Être lumière et sel du monde. Donc, c'est la référence Matthieu 5, versets 13 à 16 qui dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Comme on l'a vu dans ces dernières semaines, nous ne pouvons pas être le sel de la terre ni la lumière du monde si nous ne brillons pas, si le Saint-Esprit ne vient pas nous aider à briller, à être un véritable disciple de Jésus. Donc, on va démontrer vraiment par des exemples concrets et pratiques de comment briller de la lumière de Jésus. Et nous allons voir comment, dans quatre sphères principales, comment que dans la vie de tous les jours, il y a quatre sphères où nous sommes réellement presque à chaque jour ou bien régulièrement. Le premier, c'est dans notre travail. Comment être une lumière dans le travail? On va voir aussi la théologie du travail parce que Dieu ne nous demande pas juste de travailler pour gagner de l'argent. Il nous demande d'être une lumière dans notre travail. Et on va voir comment que dans ces prochaines semaines, comment que Dieu veut que justement, qu'on soit cette lumière dans le travail. Avec nos cercles d'amis et famille, avec nos cercles d'amis et famille, comment aussi d'être cette lumière? Là, on est souvent avec des familles, avec nos amis autour de nous. Avec notre voisinage, comment être lumière, comment être celle de la terre avec notre voisinage? On va mettre aussi des exemples concrets et on va aussi apporter aussi des témoignages de personnes, de vous ou d'autres personnes, comment qu'ils ont concrètement mis en action d'être une lumière dans leur voisinage et aussi dans nos loisirs. On a aussi des loisirs, des temps de récréatifs qu'on est avec les autres, qu'on peut être dans un sport ou peut-être dans une activité et à voir comment est-ce qu'on peut aussi être lumière dans ces moments-là. Donc, tous ces quatre sphères vont un peu nous accompagner durant cette année parce que on voit qu'on croit que c'est important que l'Église puisse rayonner à l'extérieur. Et c'est généralement dans ces quatre sphères qu'on va le plus être présent. Et voilà pourquoi qu'on veut mettre des choses concrètes vraiment dans les mains de notre Seigneur. Il y a quelques semaines, notre frère Antoine a expliqué que ce que ça veut dire être sel de la terre, hein. On voit qu'il y a plusieurs dispositions de la vie quotidienne et qu'on peut mettre justement en parallèle pour notre vie spirituelle. On avait partagé comment que le sel donne du goût, hein. On met du sel sur nos aliments pour justement amener une plus grande saveur, c'est-à-dire de rehausser l'aliment que nous mangeons. Donc, dans notre vie chrétienne, nous est demandé d'avoir cette saveur, c'est-à-dire d'avoir cette saveur de l'évangile qui sauve, qui transforme. Cet évangile, justement, de la bonne nouvelle de Jésus doit, jour après jour, permettre de rehausser le goût de la vie, de vivre heureux malgré les souffrances, de vivre en paix malgré toutes les peurs environnantes face aux différentes situations qui nous entourent. Nous avons vu aussi que le sel donne soif. Hein, il nous a donné l'exemple aussi comment que dans les bars, hein, souvent ils mettent des cacahuètes, c'est pour justement pour nous permettre d'avoir plus soif pour pouvoir dépenser plus de boissons. Donc, si on mange trop salé, on a tendance à avoir soif. Donc, dans notre vie chrétienne, on doit tellement être salé que les personnes autour de nous puissent avoir soif de connaître ce qui les rend si salés, de connaître Jésus pour avoir eux aussi la possibilité d'être pardonnés et justifiés devant Dieu. Il faut que par nos actions, les gens soient intéressés à connaître Jésus-Christ. Nous avons vu aussi comment que le sel empêche la décomposition, hein? en utilisant beaucoup de pays parce qu'ils n'ont pas forcément des frigidaires ou des congélateurs pour conserver la viande, le poisson, les aliments pendant longtemps. On l'enrobe dans du sel. Donc, par notre exemple de vie et par nos actions, on apporte les vraies valeurs de Dieu et on empêche que le monde s'écroule dans l'anarchie, dans la corruption. Je vous ai déjà partagé que lorsque des fois je parle avec certaines personnes, lorsqu'ils savent que je suis pasteur, ils font attention à leurs paroles devant moi. Hein. Ils disent, ah, oh, le pasteur est là, il faut faire attention à ce que je vais dire. Et donc, je ne veux pas dire que je suis un exemple, mais dans le sens que ils savent que lorsque je suis ici, le fait que je veux apporter des vraies valeurs, que je veux avoir des paroles pleines de signification et pas des paroles mauvaises, etc. Donc, est-ce que notre vie est plutôt fade ou plutôt salée? C'est ce qu'il est dit dans le verset 13. Quand celle qui est fade, qui est sans goût, l'objectif de la matière qui n'est plus présent, le sel est là pour conserver, pour donner du goût. Mais si il est fade, s'il fait plus rien, alors il vaut mieux de le jeter, le fouler aux pieds des hommes, par les hommes, au fouler aux pieds des hommes. Est-ce que nous reflétons tellement le royaume de Dieu par nos paroles, par nos actes, par nos témoignages, que les gens sont attirés à connaître ce que nous possédons? Voilà, donc le sel donne le goût, le sel donne soif, le sel empêche la décomposition. Donc, notre frère Antoine nous avait partagé ça il y a quelques semaines. Donc maintenant, on va regarder comment être la lumière du monde. Comment être la lumière du monde? Donc, ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Comme la photo que vous voyez sur l'écran, lorsque une ville est au-dessus de la colline, on voit, ça attire notre regard. Je me rappelle quand même, quand j'étais en Europe, souvent en Suisse ou en France, il y a souvent des châteaux en haut d'une montagne. Et lorsqu'on arrive dans la région, ben, on est attiré de lever les yeux, de regarder. Ça attire nos regards. Et justement, l'exemple de Jésus que propose avec les villes au sommet n'échappe à personne. Le chrétien est semblable à une ville située sur une montagne. Elle domine les alentours et brille au milieu de l'obscurité. Celui justement dont la vie reflète l'enseignement de Christ ne peut être caché. Donc sommes-nous, est-ce que nous sommes cette lumière qui brille? Sommes-nous le reflet de Christ dans nos paroles, dans nos agissements, dans notre témoignage? Nous savons que le monde autour de nous est plongé dans les ténèbres à cause du péché, à cause du mal qui règne. Notre société est plus tournée vers les choses obscures que vers la véritable lumière que Dieu offre. Donc Jésus est la lumière et en tant qu'enfant du Christ, nous sommes le reflet de cette lumière. Les gens doivent voir en nous ce qui est en Jésus. Alors justement, il est dit dans le verset 5, dans le verset 15 plutôt, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Je voulais prendre un exemple, comment qu'on peut voir la lumière, mais je me suis dit en pleine journée, ça risque d'être un peu difficile, de mettre une lumière et de mettre quelque chose dessus la lumière. Et on va voir que la lumière n'éclaire plus. Aussi, généralement, on essaye de mettre la lumière sur quelque chose d'un peu plus élevé. Parce que si on met la lumière juste par terre, elle va éclairer juste autour de la lumière. Mais si on la met sur l'estrade ou si on la met plus haut, à ce moment-là, elle éclaire beaucoup plus, elle rayonne beaucoup plus autour d'elle. Lorsque les gens voient les enfants de Dieu, il doit voir justement cette lumière briller. Il doit voir que nous reflétons Christ dans tous les aspects de notre vie. Et c'est à ce moment-là justement que les gens autour de nous qui vivent dans leurs ténèbres, cette lumière va les éclairer, va les encourager à venir vers cette lumière, à saisir cette lumière. Et nous avons cette responsabilité que Jésus nous donne dans ces versets et qu'on doit l'accomplir pour être dans sa volonté. Il ne nous a pas dit, si c'est possible, soyez une lumière. Si c'est possible, soyez le sel. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais comment être justement cette lumière qui brille? Comment être ce sel plein de saveur? Et on n'a pas besoin d'aller chercher trop loin, puisqu'on a une partie de la réponse dans le chapitre 5 de Matthieu. Alors regardons justement au début de Matthieu 5, où Jésus va expliquer à travers ce que nous appelons le serment de la montagne, des directives claires de ce que c'est le royaume de Dieu, les objectifs du pourquoi il est venu sur terre, de ce qu'il demande pour ceux qui veulent suivre Jésus. Donc, on va voir les béatitudes. Donc, regardons les différentes béatitudes et on va voir comment que ces béatitudes nous apprennent à comment être le sel, la lumière du monde autour de nous. Verset 3, il est dit, Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Donc ici, on voit un peu l'aspect de l'humilité, de reconnaître que nous ne connaissons pas tout ce que nous avons encore besoin d'apprendre de la parole de Dieu, de comment cheminer et grandir dans notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi que notre vie doit être de plus en plus salée en Dieu, d'avoir meilleur goût jour après jour, pour que justement on ait toujours ce désir d'apprendre plus, de pouvoir continuer à grandir avec le Seigneur. Il est dit, Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Plus loin au verset 4, il est parlé de la souffrance. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Le texte envisage non les larmes qu'on verse à cause d'une situation de notre vie, mais les peines qu'on éprouve à cause de la communion qu'on a avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette affliction, justement, résulte d'un partage actif avec Jésus des souffrances et du péché du monde. Donc, ce n'est pas simplement juste pour ceux qui pleurent parce qu'on est malheureux, parce qu'on a une situation, parce qu'on a perdu quelqu'un, ou peut-être parce qu'on a une situation grave qui est arrivée. Mais on pleure à cause de la situation du monde, à cause du péché, à cause de la souffrance qui se passe. Et on pleure devant le Seigneur de cette difficulté et qu'on veut justement pouvoir continuer de prier pour que Jésus change ce monde. On a besoin d'avoir cette tristesse devant le péché, devant le mal qui règne. Et c'est un témoignage que nous sommes touchés lorsque justement on voit toute la misère autour de nous. On ne peut pas simplement dire, ben écoute, c'est peut-être pas moi, je peux rien faire, je suis tout seul, je peux pas changer les circonstances du monde. Non, c'est vrai, mais on peut changer les circonstances autour de nous. Et lorsque les gens voient comment que nous sommes peinés, nous sommes tristes par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à ce que les gens vivent dans leur situation personnelle, à ce moment-là, ils sont aussi touchés. Ils sont touchés aussi dans leur cœur. Dans le verset 5, il est parlé de l'humilité. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. C'est vrai que l'humilité, aujourd'hui, ce n'est pas forcément une valeur qui est promue par la société. On encourage beaucoup plus d'être orgueilleux, de pousser l'autre pour faire sa place. Mais on a besoin d'avoir cette attitude, d'être lumière à travers l'humilité. Parce que l'humilité, même si ce n'est pas quelque chose qui est prôné aujourd'hui dans notre société, va intriguer les gens. Pourquoi je reste humble? Pourquoi que je mets les autres en avant de moi? Pourquoi que j'essaye pas au travail ou dans d'autres circonstances essayer d'être le premier, de vouloir essayer d'écraser les autres? Dans certaines versions, il est parlé de heureux ceux qui sont doux. Donc la douceur implique l'acceptation de son humble condition. La douceur est à l'opposé d'un comportement incontrôlé, d'un orgueil. C'est nullement une faiblesse, mais une marque de maîtrise de soi qui est communiquée par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle avec une parole calme, une attitude qui est douce, ça peut changer la situation qui devient des fois incontrôlable. Voilà le témoignage puissant de la lumière de Dieu en nous, qui continue de rayonner, qui nous permet justement de rester calme, doux, humble devant les circonstances. Il est parlé aussi dans le verset 6 de l'obéissance à Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Donc, elle caractérise ceux qui cherchent la justice de Dieu au lieu de tenter d'établir leur propre justice. Ces personnes dans le Seigneur aspirent à l'honnêteté, à l'intégrité, à la justice dans la société. Ils recherchent la sainteté dans l'Église. Nous pouvons justement être cette lumière dans tous nos agissements pour pouvoir vraiment vivre cette justice de Dieu, d'être juste, d'être honnête dans tout ce que nous faisons. Dans la version Parole de vie, de ce verset 6, il est dit, Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu parce qu'ils seront satisfaits. J'aime bien cette traduction. L'importance d'obéir en toutes circonstances à Dieu, d'agir selon sa volonté, selon sa justice, non pas selon la justice du monde. Combien de fois que on pourrait dire, ben, une personne m'a fait du mal, ben, moi, je peux lui faire du mal en retour ou je peux me révolter, etc. Combien de fois que Dieu nous dit, laisse faire, viens avec amour, continue d'agir dans l'amour dans le respect de l'autre, de l'aimer. Et tu vas agir, même si la personne ne comprend pas ce que tu fais, mais tu apportes la lumière, tu apportes ce sel autour de toi à travers tes agissements. Dans le verset 7, on voit le mot bonté. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu se rend bon pour eux. Donc, être miséricordieux signifie d'être animé d'une compassion agissante. Donc, au premier abord, c'est de s'abstenir de châtier les coupables qui méritent pourtant une sanction. Dieu nous a donné de sa bonté parce qu'il nous a offert à travers Jésus-Christ la grâce d'être sauvés. On a chanté, on a prié ce matin aussi de la bonté de Dieu. Nous devons aussi être bons envers les autres. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Si nous sommes bons pour les autres, Dieu va être aussi bon pour nous. Voilà pourquoi qu'on doit déverser cette bonté à travers justement nos agissements, nos paroles. Comment être ce sel, comment être cette lumière justement, à travers des gestes de bonté. D'être capable de donner goût au monde qui recherche plutôt la satisfaction de soi-même, mais d'amener la bonté de Dieu. Il est parlé au verset 8 d'un cœur pur. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Donc, une personne au cœur pur est animée de mobiles qui sont nobles, de pensées saintes, de sa conscience, elle est nette. Dans notre société, c'est vrai qu'on cherche sa propre gloire, pour dire des fois même que le péché n'est plus péché. Mais nos agissements, nos paroles, nos pensées peuvent être sel et lumière. Si notre cœur est pur, si nous reflétons réellement la lumière de Dieu, si réellement nous donnons ce goût, ce sel, que nous sommes ce sel de la terre, ce goût aux autres. Alors les gens vont voir comment que ceux qui ont un cœur qui est troublé, qui est croche, qui est loin de Dieu, vont se tourner vers le Seigneur. Parce qu'ils verront eux-mêmes qu'ils sont dans le péché. Ils vont voir eux-mêmes qu'ils sont dans la mauvaise direction. Au verset 9, il est parlé de la paix. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Ici, le Seigneur ne parle pas de ceux qui ont des dispositions pacifiques ou de ceux qui aiment la paix. Il désigne ceux qui agissent en faveur de la paix. On a des fois une tendance un peu naturelle de se contenter d'observer les querelles à distance. Hein, on dit, ah ben ça, c'est pas nous. On voit une situation qui se passe autour de nous, au travail ou bien ailleurs, dans le voisinage. Puis on dit, non, non, ça c'est eux, ils vont s'occuper entre eux. Mais nous pouvons agir en faveur de la paix. Nous pouvons avoir justement cette démarche qui consiste à intervenir positivement pour créer la paix. Même peut-être des fois au prix de coups et d'injures. Ça arrive que des fois, que lorsqu'on veut justement apporter la paix peut-être dans une tension peut-être entre collègues, mais que les autres nous injurent ou nous insultent parce qu'ils ne veulent pas qu'on vienne. Mais quand on vient avec des paroles douces, avec des paroles humbles, avec ce désir réel de paix, ça change les cœurs aussi. Dans le verset 10, être prêt à souffrir. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Donc le royaume de Dieu est promis à tous les croyants qui souffrent parce qu'ils font le bien. Leur intégrité, justement, condamne le monde impie et révèle l'hostilité du monde en rapport à Dieu. Les hommes haïssent la vie juste parce qu'elle met en lumière leur injustice. Lorsqu'ils sont en présence d'hommes et de femmes qui amènent cette lumière, cette vérité, ça révèle aussi leur manquement, ça révèle aussi leur cœur mauvais. Alors oui, c'est vrai que nous allons souffrir parce qu'on désire défendre la justice, on veut défendre la vérité, mais la récompense est grande pour ceux qui restent justes, car le royaume des cieux leur appartient. Cette lumière doit briller, même dans les situations injustes que nous pouvons vivre. Et dans le verset suivant, le verset 11, on voit un peu insultes et persécutions. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Donc, cette dernière béatitude semble un peu une répétition de la précédente, mais il y a une différence. Au verset 10, il s'agit de persécution à cause de la justice. Ici, il s'agit d'une persécution à cause de Christ. Le Seigneur savait que ses disciples seraient maltraités à cause de leur attachement à lui et de leur loyauté envers lui. Et l'histoire l'a confirmé. Depuis l'origine, le monde a persécuté, emprisonné et tué les disciples de Jésus. Lorsque je lisais ces versets, ça me fait penser à la situation qu'on a vécue avec notre ancien propriétaire, de comment que Dieu nous a appris à être lumière, même quand il y a opposition. Et peut-être c'est vrai que nous n'allons pas vivre peut-être comme la photo nous montre sous le derrière des barreaux, en tout cas pas encore ici au Québec, mais dans beaucoup de pays, de plus en plus, le monde chrétien est persécuté et maltraité. On dit justement que c'est la population qui l'a la plus justement persécutée. Et c'est drôle de voir cela, mais drôle dans le sens que c'est étonnant parce que en même temps, les chrétiens sont normalement les gens les plus aimants, sont les gens les plus tolérants, les gens les plus ouverts à porter bonté, grâce, amour, compassion. Mais justement, à cause que l'ennemi travaille dans les personnes, lorsqu'il voit à travers les personnes la lumière de Jésus-Christ, lorsqu'il voit à travers ces personnes le sel de la terre, alors il y a une réaction qui se fait par l'ennemi. Et voilà pourquoi qu'encore justement autour de nous, il y a des personnes qui nous insultent, qui nous persécutent à cause de notre foi. Et le verset 12 nous donne la véritable raison de toutes ces béatitudes. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Donc, si nous mettons toutes ces béatitudes en action, à travers être une lumière du monde, à travers être celle de la terre, alors la véritable récompense nous attend dans les cieux. Oui, peut-être ça va être des temps difficiles. Oui, peut-être que il y a des moments où on ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Mais ces béatitudes nous rappellent, nous disent heureux, heureux. Heureux celui qui met sa confiance en Dieu, heureux celui qui reste humble, heureux celui qui procure la paix, heureux celui qui même se fait insulter, heureux celui qui se fait même persécuter, parce que le royaume de Dieu est aussi pour eux. L'ultime récompense, la plus grande, la plus chère, c'est d'être un jour en présence de notre Seigneur. Alors nous sommes en train d'investir pour avoir une récompense future. On n'investit pas de l'argent, on n'investit pas quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose peut-être plus ici dans la vie. Mais on est en train d'investir pour le royaume des cieux, pour avoir la récompense ultime le jour que nous serons avec le Seigneur. Dieu donne déjà des récompenses sur cette terre, mais la plus grande est à venir. Alors toutes ces béatitudes nous démontrent que si nous sommes vraiment sel et lumière dans nos actes, dans notre façon d'être les uns avec les autres. Et si nous continuons dans le verset 16, justement, il est parlé de cette lumière doit briller devant tous les hommes. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, il dit que nous ne devons pas seulement briller devant les frères et sœurs de l'Église, mais devant tous les hommes, même ceux qui disent du mal de nous, même ceux qui nous rejettent, nous maltraitent. Rappelez-vous que nous sommes le reflet du Christ qui nous a dit de nous aimer les uns les autres, de prier pour ceux qui nous persécutent, de faire du bien pour ceux qui nous maltraitent. Le reflet de cette lumière va se voir à travers nos actions, à travers le bien que nous faisons. Nous n'avons pas besoin, chaque fois en faisant le bien, de parler de Christ ou de notre foi. Nos actes, nos actions parlent de Christ aussi. C'est vrai que si nous avons l'occasion de parler aussi de Dieu ou de notre foi, notre témoignage, faisons-le. Mais déjà par nos actes, déjà par notre présence, Dieu agit. Et voilà pourquoi que nous allons voir justement dans les différentes sphères de notre vie comment que nous pouvons être un témoignage au travail, même si au travail, on n'a pas le droit de parler de Dieu. Dieu agit à travers le travail que nous faisons dans la compagnie. Dieu veut bénir la compagnie, même si notre patron nous maltraite, Dieu veut bénir la compagnie parce que nous sommes là, parce que nous sommes cette lumière dans le travail. Donc, on va voir justement comment que dans ces différentes sphères, on peut être une bénédiction, on peut être ce geste de bonté, cette geste de grâce, d'être ce sel, d'être cette lumière. Mais il est parlé aussi qu'en tant qu'Église, nous sommes aussi appelés à briller devant les hommes. Comment être lumière dans notre quartier? Comment être sel auprès de la communauté voisinante? Lorsqu'une communauté se met au service des gens qui l'entourent, la communauté chrétienne qui se met au service des gens, elle influence le quotidien du monde bien plus qu'on l'imagine. Des fois, on a l'impression que Ah, si on va dans la rue, puis si on ne parle pas de Dieu, ben on ne fait pas d'évangélisation, on ne fait pas le mandat que Dieu nous donne. Mais juste d'être une présence dans le quartier, juste d'être là pour prier, pour intercéder, pour aimer les gens, va à l'avenir changer les gens, va changer l'atmosphère du quartier. Voilà pourquoi que nous avons besoin de devenir une église missionnelle et intentionnelle. C'est-à-dire une église qui a comme mission son quartier, sa communauté. Et ça, je pense qu'on a perdu un peu ici à l'église Carrefour de Saint-Henri. Avant la pandémie, on avait plusieurs activités qu'on faisait dans le quartier. Des fois, c'est vrai que c'était beaucoup de travail à faire, mais les gens nous voyaient. Les gens pouvaient voir que nous étions présents sur le terrain. Ils voyaient qu'on aimait le quartier, qu'on aimait la communauté, qu'on voulait leur bien. Être une église aussi intentionnelle. L'intention, ce n'est pas forcément de convertir les personnes, parce que c'est la tâche de Dieu, mais c'est d'être sel et lumière, de donner le goût à chercher les choses de Dieu, de donner soif aux personnes pour avoir envie de connaître Dieu et son amour. Voilà pourquoi il est bon d'investir du temps dans la vie de notre communauté d'une façon intentionnelle, c'est-à-dire dans le désir d'être ce témoin de Jésus-Christ. Nous prions actuellement plusieurs fois lorsque nous avons des temps de prière. Comment faire ce travail missionnel? Comment être cette église qui brille aussi dans le quartier? Et on va continuer de prier parce que nous croyons que Dieu veut nous montrer, Dieu veut nous préparer à une tâche pour que nous puissions rayonner de la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prendre aussi la Sainte-Seine, ce dernier repas que Jésus a fait avec ses disciples pour leur dire qu'ils devaient aussi se rappeler aussi de ce que Jésus était venu faire. Jésus veut nous rappeler encore aujourd'hui qu'il est la lumière de ce monde, qu'il est le sel. Mais comme on l'a lu dans ce texte, si le sel perd de sa saveur, il est fade, on le jette aux ordures. Si notre lumière brille, mais qu'elle est cachée sous un chaudron ou sous un boisseau, elle va éclairer personne. Alors c'est possible que peut-être qu'on ait cette lumière, c'est possible qu'on soit ce sel, mais qu'on ne sale plus ou qu'on ne brille plus, à cause peut-être de certaines choses dans notre vie, à cause peut-être d'un péché récurrent, à cause peut-être aussi d'un manque d'enthousiasme pour le Seigneur, de passion, de vivre cette passion avec le Seigneur, d'avoir le Saint-Esprit en nous, mais qui ne nous remplit pas, qui ne nous change pas, qui ne nous transforme pas. Alors ce matin, justement, à travers cette sainte scène, on peut réaliser encore comment que Jésus vient encore aujourd'hui apporter cette lumière. Il vient encore nous pardonner, il vient encore nous laver, il vient nous dire encore, il y a plus de 2000 ans, j'ai donné la vie dans un grand geste de bonté, d'amour, de grâce. J'aimerais que maintenant tu puisses le faire aussi vers les autres. Je t'ai donné la vie pour l'éternité. Je te promets une vie éternelle avec moi. Mais en attendant cela, je te place dans le monde pour que tu puisses briller, pour que tu sois cette lumière, pour que tu sois ce sel. Alors simplement courbons notre tête un petit moment et laissons l'Esprit de Dieu nous montrer à travers justement ces béatitudes, à travers justement cet exemple de la lumière du sel, pour dire Seigneur, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a peut-être une béatitude que j'ai plus de difficultés à vivre? Est-ce qu'il y a une des béatitudes que j'ai manquées, je perds, que j'arrive plus à vivre? C'est l'occasion de demander la grâce, la bonté de Dieu. C'est l'occasion de demander la force de l'Esprit de Dieu pour changer, être transformé. Alors nous sommes invités à venir devant cette table en rappel de ce que Jésus a fait pour nous. Jusqu'au bout, il a été cette lumière, malgré les insultes, malgré la souffrance, malgré le rejet. Il était au bout de la mission pour nous donner la vie. Et à travers ces éléments, il nous rappelle comment que encore aujourd'hui, il est là pour nous pardonner, pour nous gracier, pour nous donner la vie, pour nous rappeler que ce salut qu'il nous offre est encore là aujourd'hui pour chacun de nous. Alors on peut venir humblement devant cette table dans un esprit de confession, un esprit d'humilité pour reconnaître qu'on a encore besoin de la grâce de Dieu, mais aussi dans un esprit aussi de consécration qu'on veut avancer avec le Seigneur. Aujourd'hui, on va faire un peu différemment. Généralement, c'était moi qui parlais puis que vous écoutiez, mais aujourd'hui, vous allez aussi participer aussi une partie. Quand il y a les prières de confession, de consécration, vous allez aussi le lire aussi à haute voix. Comme ça, c'est aussi un acte que vous faites aussi, pas seulement le pasteur. Alors, on va vous dire quand il faudra. Mais écoutons l'invitation. Si vous vous repentez sérieusement et sincèrement de vos péchés, si vous vivez dans l'amour et dans la paix avec votre prochain, si vous menez une nouvelle vie en suivant les commandements de Dieu, si vous marchez dans ses saintes voies, si vous vous approchez de lui par la foi, si vous prenez ce Saint-Sacrement pour votre consolation, adressez dans une humble prosternation cette confession honnête au Dieu Tout-Puissant. Alors, on va. Non, Nicole, tu peux laisser le faire. On va le faire tous ensemble, on va lire tous ensemble. Donc, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, Juge de tous les humains, nous confessons que nous avons péché et que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de nos vies passées. Nous avons péché contre toi, ô Dieu Saint, et contre ton amour. Nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regrettons profondément d'avoir mal agi et de ne pas avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard pour ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Pardonne-nous et purifie-nous. Donne-nous la force de te servir et te plaire en nouveauté de vie, en t'honorant et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, continuons à travers la prière du Seigneur, nous la connaissons aussi, cette confession, tous ensemble aussi, de ce que la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous poursuivons justement dans cette déclaration de foi encore tous ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, qui dans ta grande miséricorde a promis le pardon à tous ceux qui se tournent vers toi avec une repentance et une foi sincère, sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous et délivre-nous de nos péchés. Fortifie-nous et nous rends fidèles en toute bonté et conduis-nous dans la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Unissons encore nos voix dans cette prière de consécration des éléments. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, par amour, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour souffrir la mort à la croix pour notre rachat. Ton Fils qui, par son sacrifice, s'est offert une fois pour toutes, a accompli une expiation suffisante, parfaite et totale pour les péchés du monde entier. Nous venons maintenant à t'attendre par obéissance à ton Fils Jésus-Christ, qui dans son Saint-Évangile nous ordonne de commémorer de façon perpétuelle sa mort précieuse jusqu'à son retour. Alors avant de continuer, nous sommes appelés à venir prendre des éléments et de retourner à notre place. Ensuite, on va les prendre tous ensemble. Donc en se levant, nous déclarons que nous voulons encore que cette grâce, ce pardon de notre Dieu se fasse et que nous continuions de proclamer que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Alors, continuons d'unir nos voix dans cette prière d'approche. Tous ensemble, on peut à haute voix. Entends-nous, ô Père miséricordieux, car nous te demandons humblement de nous accorder, en prenant ce pain et cette coupe, comme il l'a ordonné, et en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à son corps très saint. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit en donna à ses disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est rompu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, on veut te remercier parce que, à travers ces éléments, tu nous rappelles ce que tu es venu faire sur terre. Mais Seigneur, ce n'est pas simplement juste un rappel. Nous croyons, Seigneur, que tu agis aussi à travers ces éléments. Ce pain qui représente ton corps qui a été sacrifié, qui a été maltraité pour nous. Merci d'avoir été jusqu'au bout pour nous donner la vie. Seigneur, tu nous as appelés ce matin, Seigneur, à être cette lumière, à être ce sel de la terre. Nous voulons le faire avec toi. Nous voulons vraiment que, Seigneur, ce que tu as souffert sur la croix, par ta grande grâce, par ta grande bonté, toi qui étais juste pour nous qui étions injustes, tu l'as fait par amour. Nous voulons, Seigneur, aussi déclarer ce matin que on veut continuer de te suivre par amour, parce que tu as fait de grandes choses aussi pour chacun de nous. Merci pour cette coupe qui représente ton sang qui nous lave, qui nous purifie. Merci Seigneur, parce que tu continues de nous purifier, de nous laver même encore ce matin. Nous avons vu, Seigneur, qu'à travers les béatitudes, il y a peut-être des choses que nous ne faisons pas selon toi. Tu nous as dit d'être heureux si nous faisons telle chose. Seigneur, on te demande encore ta grâce pour que justement ces béatitudes puissent vraiment être d'actualité dans nos vies de tous les jours. Pour que ce sang qui a été versé puisse continuer de travailler en nous pour nous façonner, pour nous rendre de plus en plus justes devant toi. Alors, merci. Merci pour ce rappel, merci pour cette action que tu continues de travailler en nous. Fais que nous puissions vraiment encore t'honorer à travers nos gestes, nos actions, nos paroles, pour être cette lumière, pour être ce sel de la terre. Donc, terminons par ce mot de bénédiction. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos corps et vos esprits dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous maintenant et à jamais. Amen. Amen.